Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.
Christine, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Nous allons aujourd'hui continuer notre réflexion autour de la programmation neuro-linguistique, autrement dit la PNL. Nous avons fait une première émission qui était introductive, et puis la dernière fois, nous avons parlé des sens sur lesquels s'arrête la PNL, en particulier trois d'entre eux, le fait d'être soit visuel principalement, soit auditif, soit kinesthésique, sachant que ce sont ces trois éléments qui vont apparaître de façon, allez, on va dire, majoritaire dans notre mode de fonctionnement. Mais aujourd'hui, vous allez nous amener un petit peu plus loin dans la compréhension et dans la découverte du relationnel, parce que finalement, ce sont des modes relationnels qui nous permettent de vivre ensemble ou d'avoir des difficultés ensemble. Ça peut être ça aussi, malheureusement. Mais l'objectif de ces chroniques, c'est de nous aider à mieux comprendre pour mieux être en relation. Alors, Christine, que souhaitez-vous aborder aujourd'hui ?
Alors, au menu aujourd'hui, nous allons être plutôt dans les incompréhensions. Qu'est-ce qui fait que lorsque vous me dites quelque chose, il m'arriverait de comprendre autre chose, de ne pas comprendre ce que vous avez voulu me dire?
Ce qui arrive assez souvent. Enfin, moi, j'ai des images de couples qui me viennent tout de suite et je me revois dans certaines situations donc, où effectivement, on a l'impression d'être clair, mais en fait, pour l'autre, on ne l'est pas du tout.
Exactement. Ou alors, inversement, l'autre pense avoir bien compris ce que vous avez voulu dire et de ce fait réagit par rapport à cela et en fait n'a pas eu toutes les informations. Alors, on va parler justement de ce qu'on appelle le métamodèle en programmation neurolinguistique. Donc, méta toujours parce qu'on se met en position d'observateur. Les métamodèles. On peut aussi dire, et moi j'utilise plus volontiers cette expression, les imprécisions du langage. Donc les imprécisions du langage, on peut parler de omission, de généralisation et de distorsion. Alors par exemple, pour le premier cas qui est l'omission, on omet de dire quelque chose.
Parfois on le fait exprès.
Parfois, mais parfois pas.
Mais pas toujours.
Voilà. Alors si je vous dis, vous imaginez donc quelqu'un qui vient vous voir et qui voudrait travailler avec vous et il vous dit, écoutez Fabrice, je suis très motivé pour le faire.
Oui.
Comment réagissez-vous? À quoi pensez-vous?
Ah, moi, j'aurais envie d'en savoir plus.
Eh bien, vous avez raison. Il faut en savoir plus, puisque l'information n'apparaît pas. Vous ne savez pas qu'est-ce qui fait que la personne est motivée, sur quoi est motivée. La problématique, c'est que parfois, j'aurais pu vous dire « je suis très motivée » et vous auriez pu imaginer que j'étais capable de libérer un grand, grand nombre d'heures pour venir vous voir, par exemple. Mais par contre, dans ma tête, être très motivée, ça veut dire que ça me fait beaucoup de plaisir et que je trouve cette expérience intéressante.
Voilà. Je dois dire que pour moi, alors je ne sais pas si je suis de tempérament méfiant, mais quelqu'un qui vient me dire qu'elle est très, très motivée, cette personne, à la fois j'aurais envie de l'accueillir en lui disant super, et puis en même temps, j'aurais tendance à être un petit peu méfiant.
Oui. Tout à fait. Donc c'est une bonne posture pour mieux comprendre l'autre et donc forcément vous iriez poser des questions, par exemple à propos de quoi êtes-vous motivé, qu'est-ce qui fait que vous êtes motivé, en quoi êtes-vous motivé, et de ce point de vue-là vous iriez chercher les informations et ça vous permettrait de bien comprendre la motivation de l'autre. Mais le piège c'est que vous pouvez penser que lorsque la personne dit je suis motivé ou je ne suis pas d'accord ou je veux changer, que vous imaginez que vous connaissez exactement ce dont elle parle.
Ça s'appelle une projection, non?
Oui, on peut dire ça comme ça, voilà, tout à fait. Ou de nouveau une interprétation, pour reprendre le terme de l'interview dernier. Alors nous avons aussi ce que nous appelons les omissions comparatives, et là on le fait assez souvent. Je vais changer de magasin parce que c'est plus cher qu'ailleurs, je suis meilleur que les autres. En entretien de recrutement, on peut entendre « je suis plus compétent ». Donc là aussi, on voit bien que la personne n'exprime pas en quoi elle est plus que l'autre. Donc il faut simplement être vigilant, puisque au long d'une journée, nous rencontrons beaucoup de personnes. Et comme vous le disiez, avec la fatigue, on peut penser qu'on a compris et en fait être déçu lors d'autres rencontres et se rendre compte justement que nous n'avions pas compris la personne.
Et pourquoi est-ce qu'il nous arrive de nous exprimer ainsi par omission, par conséquent? Qu'est-ce qui génère ce phénomène-là?
C'est une sauvegarde, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous allons procéder par généralisation, par omission, par distorsion, pour nous protéger d'un certain nombre d'informations et pour faire en sorte que nous puissions continuer à évoluer. Et donc, quand nous manquons de précision, c'est que parfois les précisions peuvent nous déranger.
Ou nous desservir.
Voilà, tout à fait.
Okay. Hein.
Donc, c'est des mécanismes de sauvegarde que nous mettons en place sans nous en rendre compte.
Alors, pour notre part, on essaye d'être en relation la meilleure possible les uns avec les autres. Qu'est-ce que la programmation neurolinguistique nous apprend encore ?
Alors, donc, dans ces imprécisions de langage, vous pouvez retrouver ce qu'on appellera les généralisations. Alors, dans les généralisations, nous avons des expressions que tout le monde connaît bien. D'ailleurs, là, je viens de faire une généralisation à moi toute seule.
Tout le monde connaît bien, c'est
voilà, ça ? Voilà, c'est ça. Et donc, en utilisant des mots comme aussi, toujours, jamais, personne, on dit que. Il fait toujours froid en hiver, eh bien peut-être que cette année c'est une démonstration comme quoi ce n'est pas toujours le cas. Voilà, quand on utilise les mots comme toujours ou jamais, si votre interlocuteur les utilise, c'est de votre devoir de lui demander en quoi c'est toujours de cette manière-là.
Est-ce que par exemple quand quelqu'un vient en disant « alors moi je pense ceci et j'ai plein d'autres personnes qui pensent comme moi », c'est aussi de cet ordre-là ?
Alors là, c'est toujours une imprécision du langage, mais on parlera, parce qu'on a découpé les informations, on parlera de lecture de pensée à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est une tendance à faire parler les autres.
Mm-hmm.
Voilà, comme ça, c'est plus facile.
Ah oui, ouais. On est porteur de quantité d'avis, oui.
Donc on revient à notre sécurité. Hein. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la distorsion et la lecture de pensée.
Mm-hmm.
En généralisation, on aura aussi tout ce qui est autour du règlement ou du jugement. Et on utilisera des mots comme « devoir »,« falloir », »,« pouvoir ». Et donc quelqu'un qui me dit « mais je ne dois pas faire ça », quelque part, elle vous influence parce que vous vous dites « oh là là, si elle le fait, ça va être difficile pour elle ». Mais il faut vraiment aller creuser la raison pour laquelle elle ne doit pas faire cela. Et quelquefois, c'est de nouveau une protection qu'elle se met, mais il n'y a pas vraiment de bonne raison pour ne pas le faire.
Alors là, j'ai besoin de votre part d'un peu plus d'explications. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la distorsion dans ce que vous venez de dire ? C'est la perception qui est distordue ?
Oui, ou alors on est soit dans la généralisation ou la distorsion. En tout cas, la personne n'est pas précise. On dira que c'est de l'ordre de l'imprécision. Et elle peut penser qu'effectivement, elle doit toujours faire cela. Et le fait de lui poser la question « mais qu'est-ce qui fait que vous devez le faire ? Que se passerait-il si vous ne le faisiez pas ?» Vous l'encouragez à ouvrir son champ d'interrogation, d'interprétation qu'elle avait, c'est-à-dire qu'en fait, vous commencez à ce qu'on appelle en programmation neurolinguistique à l'introduire dans un recadrage de sens. C'est-à-dire que cette personne s'enferme peut-être dans un « doit » ou dans un « peut », donc dans un « devoir » ou dans un « pouvoir », et elle ne pense pas qu'elle pourrait faire autrement.
J'ai l'impression que quand on utilise ces verbes-là, on n'est pas loin de la situation de blocage. Parce que c'est de l'ordre de la conviction, de l'ordre de la représentation, un mot qu'on a utilisé précédemment, et qu'il est très difficile de changer de point de vue, en l'occurrence par rapport à ces aspects-là.
Et effectivement, et comme c'est difficile de changer de point de vue, l'interlocuteur peut aider la personne en repérant cette utilisation du verbe « pouvoir »,« devoir »,« falloir », encourager la personne à se remettre en question et réfléchir l'importance de ce qu'elle vient de dire.
Et comment faire pour ne pas rompre le dialogue ?
Je pense que vous allez rompre le dialogue si vous cherchez à convaincre la personne qu'elle ne doit pas faire cela. Mmh. Mais si vous lui posez la question « qu'est-ce qui fait que tu penses que tu dois faire cela ?», je pense que vous l'invitez à réfléchir. Ensuite, si elle vous explique qu'elle doit effectivement faire cela, c'est de sa responsabilité et c'est de sa liberté. Hein? Mais quelquefois, pour vous, il est important de comprendre en quoi c'est un devoir pour la personne. Mais quelquefois, c'est très très simple. Hein? Là, quand j'accompagne un certain nombre de managers et que je travaille avec eux sur le pilotage de leur activité, des personnes me disent « ben voilà, j'ai donné un objectif à mon collaborateur, je lui ai dit « tu dois faire autant de visites par mois ». Et là, donc, je reprends le manager et je lui explique que est-ce que c'est un devoir ou est-ce que c'est autre chose, puisque le verbe « devoir » dans ces cas-là peut avoir une résonance tout à fait négative chez son collaborateur. Voilà. Mais par contre, la personne vous expliquera que dans sa représentation du travail, il y a une notion de devoir et c'est retranscrit dans sa manière de s'exprimer.
Christine, pour terminer, est-ce qu'il existe encore d'autres imprécisions de langage? Ça va vraiment compliquer nos relations, là,
si bien, c'est le cas. C'était pas l'objectif, mais ceci étant, j'aurais aimé en citer une dernière, parce qu'il y en aurait vraiment beaucoup peut-être, mais qui me paraît très très importante, c'est ce qu'on appelle une équivalence, c'est-à-dire qu'une situation X prouve une conséquence Y. Mais comme c'est quelque chose qui nous surprend et qui peut aussi être très très présent dans notre manière de nous exprimer, je trouve assez intéressant d'en parler. Par exemple, le fait de dire qu'un niveau d'étude permettrait une capacité A. Il y a des personnes qui vont vous dire, notamment par exemple toujours dans le monde du travail, « Bien écoutez, j'ai un master, donc je peux être manager. » Donc pour lui, c'est très important, il met cette relation d'une manière évidente pour lui, alors qu'en fait, à nous de lui expliquer que, effectivement, le fait d'avoir un master va probablement l'aider à comprendre un certain nombre de phénomènes, mais qu'il y a toute une partie peut-être relationnelle qui n'est pas liée à un niveau d'étude, et qu'il y a peut-être quand même toutes ces composantes relationnelles à développer. Donc les personnes, tout à chacun, vous comme moi probablement, nous avons parfois tendance à nous enfermer dans des équivalences.
Oui, et puis j'ai l'impression que quand on discute au quotidien avec quelqu'un, on est constamment en train de faire des parallèles avec notre vie personnelle et à faire, si je comprends bien, des équivalences qui n'ont pas forcément de raison d'être.
Exactement. Et ça peut être aussi, il pleut, ça va être une mauvaise journée.
Mais aujourd'hui, pour quelle raison ? Ça peut être aussi une très bonne journée quand il pleut.
Voilà, chacun son équivalence.
Alors, je disais tout à l'heure un petit peu sur le ton de la plaisanterie qu'il va être très difficile d'être en relation les uns avec les autres avec tous ces problèmes de langage. Mais en fait, ce que vous partagez avec nous, c'est pour nous aider à prendre conscience et justement à dépasser tout cela de manière à être dans une relation verbale en particulier qui soit plus correcte, plus adaptée, surtout à l'écoute de l'autre.
Tout à fait, à l'écoute de l'autre.
Merci beaucoup, Christine, pour tout cela. Et puis on se retrouve pour continuer avec la PNL la prochaine fois et apporter encore quelques éléments.
Merci Fabrice, à bientôt.
C'était Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.